France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Dans les mots clés de la déclaration de politique générale de François Bayrou, il y a le mot chantier. C'est la réforme des retraites qui repart se faire une beauté, donc chantier mais pas suspension. Dans l'esprit du Premier ministre, il y a des voies de progrès. Il les confie aux partenaires sociaux qui vont donc se réunir à partir de vendredi à l'issue d'un conclave de 3 mois sans solution alternative. C'est la loi actuelle qui sera appliquée. Il y a aussi le mot immigration, une question de proportion, a dit le Premier ministre en prenant l'exemple de Mayotte, applicable, on l'a bien compris, au reste du territoire. Proportion égale contrôle pour lui, et nous y viendrons si vous le souhaitez. Je vous laisse d'autres pistes, peut-être proportionnelles, pas de détails, mais le mot a été prononcé, comme cumul des mandats d'ailleurs aussi, dont il n'est pas un secret que François Bayrou n'en a jamais été réellement fan. Autre mot fort attendu, autre mot plutôt entendu, fort et clair, celui de réconciliation. Pour nous les Français, le Premier ministre a parlé de rouvrir les cahiers de doléances des Gilets jaunes, réconciliation aussi au Parlement, dans le brouhaha des écrits de la France Insoumise, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui l'a pointé du doigt et sa stratégie de conflictualisation. Il a eu du mal à le dire, d'ailleurs. Vers les agriculteurs aussi, il s'est tourné, le Premier ministre, le poids des normes, ça c'est pour eux. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça? Alors, les Verts ont déjà annoncé la censure, LFI également. On verra si les communistes suivent. Normalement, oui, je vois Maxence Lambert qui fait oui avec la tête. Le PS se réunit maintenant pour en décider. Le RN ne censure pas aujourd'hui, ce sont les mots du Rassemblement National. Voilà où nous en sommes et c'est là que s'ouvre notre discussion. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Frédéric, c'est vous le premier. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Inter, bonsoir à tous.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Et vous, alors mon impression, si vous voulez, c'est que M. Bayrou paraît de très bonne volonté. Par contre, je pense qu'il a manqué de courage. Je ne sais pas ce qu'en penseront les invités. Il avait la possibilité de trancher avec le projet macronien. Il n'a pas osé le faire. Le projet macronien était de s'accrocher au pouvoir malgré, disons, le résultat des urnes, en cherchant une alliance avec les 50 députés LR plutôt que de chercher un accord avec les 180 députés de la gauche. Je pense qu'un accord entre tout ou partie du Nouveau Front Populaire et tout ou partie des Macroniens était possible. François Bayrou aurait pu exister, aurait pu ouvrir une porte qu'il n'a pas osé le faire. Je trouve que c'est dommage.
Merci Frédéric pour cette entrée en matière. C'est par là que va démarrer notre discussion. Et pour en discuter autour de la table, il y a Charles Sapin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique au Point. Il y a Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Éditorialiste politique et producteur sur dans Libération, pardon, producteur aussi de l'émission Enquête de politique, évidemment, sur France Inter, et puis Maxence Lambrec. Bonsoir Maxence.
Bonsoir Fabien.
Chef du service politique de France Inter, c'est vous. Qu'est-ce qu'on dit de cette remarque de notre ami Frédéric? Il a manqué de courage pour rester dans les pas de Macron, Thomas Legrand. Est-ce que c'est comme ça que vous l'analysez, vous, ou pas du tout?
Je pense que ça aurait été le rêve de François Bayrou de pouvoir diriger une majorité composée de tout ou partie, pour reprendre les termes de notre... Alors, ça, c'était plutôt parti que tout.
C'est ce que j'allais dire.
Parce qu'évidemment, les insoumis n'auraient pas été, c'est-à-dire les socialistes, les centristes, le bloc centriste, le bloc macronien, et peut-être les franges les plus modérées de LR. Mais cette majorité n'est pas possible, pas tellement du fait de François Bayrou, du fait de tous ces partis qui n'auraient pas voulu, visiblement, sinon ça serait fait depuis longtemps, faire consensus, sinon consensus en tout cas compromis, selon la culture du compromis dont tout le monde parle et qu'il faudrait adopter en rompant avec la culture de l'affrontement. Donc c'est pas tellement une question de courage de François Bayrou, je pense.
Est-ce que on a quand même l'impression, Charles Sapin, que chacun a eu son petit bout, en fait, chacun a eu son morceau.
Alors, c'est vrai, chacun a eu son petit bout, mais François Bayrou a pas oublié de se servir, si vous voulez. Moi, ce qui m'a marqué, c'est une petite anecdote amusante, mais pas mal de journalistes ont questionné François Bayrou ces derniers jours en disant mais est-ce que vous appréhendez cet exercice du discours de politique générale? Et puis il a répondu un peu en balayant, en disant de toute façon ce discours je l'ai en tête depuis 2007. Tout le monde a rigolé. Mm-hmm. Puis là on rigole moins parce qu'on l'a écouté. Et en fait c'est vrai. C'est vrai. En fait, son discours de politique générale, c'est un peu son programme présidentiel de 2007. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais grosse priorité sur la réduction de la dette. Un immense morceau aussi sur l'éducation, qui avait là une proportion énorme. immense là dans son discours de politique générale. Et puis, il y avait aussi la débureaucratisation. Alors, pourquoi c'est étonnant?
Parce... Vous le dites bien.
Oui,
j'ai essayé. D'un coup, c'est dur.
Il a répété avant.
Oui, faut pas me demander de le répéter. Alors, pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah oui, Bayrou fait du Bayrou, génial, super le politologue au plateau. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on est dans un moment un peu particulier de la vie politique où François Bayrou, il n'a pas été nommé Premier ministre pour porter les idées qui sont les siennes. Parce qu'il n'a pas la majorité pour l'appliquer. Il est là pour faire travailler des forces politiques qui ne sont pas d'accord entre elles. Ce qu'avait très bien compris Michel Barnier, même s'il n'a pas réussi à l'appliquer puisqu'il en est tombé. Et c'est intéressant parce que finalement, ce discours de politique générale, c'était vraiment du Bayrou 2007, Bayrou pur jus, quitte à donner des airs presque de discours présidentiel, il a fait des petites sorties de route sur le domaine réservé.
Un discours d'entre-deux-tours de présidentiel pour vous, en fait. Il est avant le premier tour, avant le deuxième tour, là, quand il parle.
Là, il est, en tout cas, oui, non, il est dans une posture de rassemblement, donc il est entre les deux tours, on va dire.
Maxence Lambret, que je disais quand même que chacun en avait eu pour son argent, on va le dire comme ça, plus ou moins, ou qui est le moins servi, qui est le mieux servi, à votre avis?
Clairement, c'est le Parti Socialiste qui perd beaucoup dans cette affaire, puisqu'ils se sont engagés très quelque chose à obtenir, que, évidemment, contrairement aux Insoumis, que les Français les attendaient. Et de fait, toute la semaine dernière, c'était en bonne voie, selon les interlocuteurs.
Bonne voie sur quoi, en fait? Est-ce qu'on leur avait promis le fameux mot suspension sur les retraites? Ou est-ce que ça n'a finalement jamais été promis?
Bien plus loin, en tout cas, de ce qui nous revient ce soir, c'est quand même les tirs de barrage de Laurent Wauquiez, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ces deux derniers jours, qui ont revu la copie à la baisse et qui donnent un discours de François Bayrou sans grande précision. Parce que je veux bien qu'il ait parlé d'éducation, mais enfin, il n'a même pas parlé des 4000 postes supprimés. Il donne aucune précision sur ce que Gabriel Attal avait lancé. Enfin, ça reste quand même très très flou. C'est un discours présidentiel sans grande échéance, sans calendrier et sans précision sur beaucoup de points.
On va reparler du Parti Socialiste que vous évoquiez tout à l'heure avec notre prochain auditeur, mais Thomas Legrand, quand même, est-ce qu'on se dit pas que sur les retraites, alors certes, le mot suspension n'est pas prononcé, mais on remet un peu les choses sur la table quand même, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne remet pas grand-chose sur la table, parce qu'on sait que finalement les partenaires sociaux auront du mal à s'entendre.
Je trouve qu'ils ne disent pas le mot suspension parce que Laurent Wauquiez a hurlé. C'est peut-être de bonne politique de ne pas le dire, il doit maintenir des équilibres, il aurait pu ouvrir un peu plus son dictionnaire des synonymes, je trouve. Suspension, il y a d'autres mots pour pouvoir dire qu'on met en suspens, c'est-à-dire qu'on renégocie vraiment. Là, ce qui est très étonnant dans le discours de Bayrou, c'est qu'on entend quand même au début sa conception de la démocratie.
Ah oui, vraiment, ouais.
Et ça, c'est très intéressant, parce que ça fait 50 ans qu'il essaye d'imposer quelque chose. On parlait tout à l'heure de la culture du compromis, il essaye de l'imposer, et là, il la théorise. Les deux seules personnes qu'il cite, les deux seules références politiques qu'il cite, c'est Pierre Mendès-France, un parlementariste, quelqu'un de gauche qui est parlementariste, qui est féru de la responsabilité individuelle et des partis politiques, et Marc Sangnier, qui est chrétien de gauche, aussi parlementariste, voilà.
Et Henri IV, mais c'est autre chose.
Il dit tous. Oui.
Jean de La Fontaine.
Comme référence politique.
Oui, j'entends.
Il présente tout ça, donc on va se dire, bon, on se dit, bon, bah alors il va
renverser la table.
Il va renverser la table. Ouais. Et puis à la fin, il nous fait une commission avec un couperet au bout de 3 mois, si vous vous entendez pas. Et on sait même pas dans ce comité ce que c'est que s'entendre. S'il met dans la CGT et le MEDEF, et s'il leur dit entendez-vous, sinon il n'y a rien au bout de 3 mois, ça ne marchera pas. Donc,
et en même temps,
c'est un peu dommage, c'était un très beau discours. À la fin des discours, d'habitude on dit ah bon, c'est un discours, il est très beau, on va attendre les actes. Là on avait dans le discours du super, puis à la fin, tac, cassé par cette proposition. Alors peut-être que ce conclave, comme il l'a appelé, en tant que chrétien, peut-être que ce conclave
du vendredi
donnera quelque chose, mais enfin, c'était pas précis du tout. Donc les socialistes peuvent être maris.
Alors on va y aller avec les socialistes une seconde, mais quand même, Charles Sapin, parce que d'après ce que vient de dire Thomas, notre précédent auditeur disait quand même, il n'a pas réussi à se décoller au fond des chaussures du macronisme. Mais précisément, quand il met les partenaires sociaux autour de la table, pour 3 mois, pour essayer de voir quelles sont les voies de sortie, est-ce que c'est pas une manière de prendre les macronistes à contre-pied, puisque les partenaires sociaux, c'était bien ça le problème d'Emmanuel Macron au moment notamment de la réforme de la retraite, non?
Alors, sur toute cette... En fait, François Bayrou et Macron avant Macron, il faut s'en souvenir aussi, c'est-à-dire, et pourquoi il s'est, et sur quel projet il s'est imposé Emmanuel Macron, parce qu'il faut se rappeler que ce n'était pas le premier choix, le choix évident du chef de l'État comme Premier ministre dans cette séquence, il s'impose sur la promesse de parfaire le en même temps, en disant, vous, chef de l'État, vous n'avez pas réussi à faire travailler totalement gauche et droite ensemble, moi, vous allez voir, je vais y arriver. Et c'est intéressant parce que, vous avez dit, donc, il n'a pas cherché les synonymes au mot suspension, mais en fait, François Bayrou a fait exactement ce qu'il avait annoncé quand il a été nommé, il l'avait annoncé à un 20h, il a dit, la réforme des retraites, c'est très simple, on va reprendre sans suspendre. Bon, ben on y est.
Entre-temps, son ministre de l'économie alors, a parlé.
Mais exactement, mais qu'a fait son ministre de l'économie? Exactement ce pourquoi il a été nommé. Éric Lombard a reçu des forces de gauche et pour essayer, au gré de négociations, de les arracher au nouveau Front populaire et non pas avoir un soutien, mais en tout cas un accord de non-censure, a mis tout sur la table. Revenir sur les suppressions de postes, revenir sur les deux jours de carence supplémentaire dans la fonction publique et évidemment, voilà. Ce modèle et cette réforme des retraites. On arrive à quelque chose alors que François Bayrou n'a pas bougé sur sa position, on voit quand même qu'il y a une progression puisqu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire, et c'est un euphémisme, est divisé.
Alors, que doit faire le Parti socialiste puisque c'est deux qu'on attend de savoir, et des 66 socialistes de l'Assemblée, s'ils vont voter la censure ou pas. On a deux auditeurs qu'on va écouter l'un après l'autre et qui ont un point de vue différent. Le premier, c'est vous, Jacques. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bien, je voulais savoir si, au-delà de François Bayrou, de son cas en tant que Premier ministre, vis-à-vis du bon fonctionnement de la France, est-ce que finalement un acteur qui a un enjeu important devant lui, c'est bien le Parti socialiste vis-à-vis de son propre électorat? Que va dire son électorat, que va faire son électorat si jamais le Parti socialiste votait une motion censure une nouvelle fois? Est-ce que son électorat ne le censurerait pas lui-même, ce Parti socialiste, dans les élections locales, régionales, nationales, s'il ne se comportait pas en parti de gouvernement responsable? C'est ma question.
On vous entend, Jacques, je voudrais qu'on entende Augustin, puis on répondra à Augustin et à Jacques en même temps. Bonsoir Augustin.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Oui, juste pour répondre à Jacques, les socialistes ont passé quelques jours, quelques nuits, même à Bercy, avec Éric Lombard, à négocier des accords, essayer de trouver un compromis. Même encore ce matin, on en avait l'espoir. Les Français, alors moi j'ai pas encore eu l'âge de voter, mais ont voté pour une force d'opposition au macronisme. On essaie de leur tendre la main pour essayer de négocier un compromis ensemble. Ils nous balayent d'un revers de main. Donc je trouve légitime que les socialistes votent la censure.
Merci beaucoup Augustin qui a 17 ans, donc ça fait toujours du bien d'entendre quelqu'un d'opinionné, quel que soit son bord, à 17 ans. Qu'est-ce qu'on répond à la fois à Jacques et à Augustin, Thomas Legrand? Est-ce que cette responsabilité, parce que là pour le coup ils ont raison tous les deux, il y a une vraie responsabilité là du Parti Socialiste.
Ils sont réunis, je peux vous dire qu'ils sont divisés.
Voilà.
Pendant le discours, j'ai appelé ma taupe chez les socialistes habituels, et il me disait sur les boucles internes du PS, c'est très divisé.
Et pas seulement interne d'ailleurs, hein, on a vu quelques voix,
oui, c'est très divisé, mais en fait l'opinion des électeurs socialistes, de la sphère socialiste est plutôt pour aller au compromis.
Sauf de la question de Jacques.
Sauf que le compromis n'a pas l'air d'être vraiment proposé très clairement par François Bayrou. Donc, est-ce qu'il faut profiter de ces 3 mois pour encore essayer, pour pouvoir dire à la fin, on a essayé, on a été de bonne volonté, avec le risque d'être isolé. Ça y est, ils sont isolés, puisque les communistes et les écologistes disent qu'ils veulent voter cette censure. La censure ne sera jamais votée, elle ne sera jamais adoptée, puisque le Front National, le Rassemblement National, Absolument. A dit ou fait entendre qu'il ne la votera pas. Donc, c'est à la limite, les socialistes pourraient même la voter en se disant, de toute façon, ça passera pas et ça ne nous empêchera pas d'aller négocier après. C'est pas très passionnant tout ça, c'est pas très passionnant. Mais c'est là où je comprends pas trop François Bayrou, parce que c'est vrai que la différence, comme disait Charles Sapin, entre Bayrou et Macron, qui sont tous les deux centristes finalement, Emmanuel Macron voulait créer un grand centre, un grand parti du centre, un socle centriste, et Bayrou a toujours dit qu'il croyait au parti et que c'est le parti centriste en pivot, mais que les autres partis devaient s'arranger entre eux, et là il ne leur permet pas.
Après, ce que je trouve intéressant dans la remarque de Jacques quand même, c'est de se demander, Charles Sapin, dans quel état sont les Français, eux? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est jaugé si nous sommes tous dans un état de ras-le-bol sidéral, et que donc une nouvelle censure mettrait tout le monde dans l'état du soupir que je viens de pousser.
Oui,
ou est-ce qu'on est aujourd'hui capable, puisqu'on est parti dans cette espèce de flou depuis la dissolution, est-ce qu'on est encore capable d'endosser une nouvelle dissolution à votre avis? Enfin, dissolution, pardon, nouvelle censure. Oula, une chose après l'autre.
Censure menant peut-être à une dissolution.
Alors, voilà.
Peut-être, bon. Mais je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Et c'est vrai qu'on a eu une participation record lors des dernières législatives anticipées. S'il y avait des élections demain, prête à parier que la participation malheureusement ne serait pas la même, tant il y a une lassitude, et on l'entend, enfin, quand on... les journalistes politiques sont passionnés, les hommes politiques aussi, mais c'est vrai que les Français ont une forme de lassitude et se dire mais ils peuvent pas s'entendre et faire des politiques qui vont dans le sens au moins de la concorde. Ça, on l'entend beaucoup. Maintenant, pour revenir au cas du Parti Socialiste et comment son comportement électoral et son comportement vis-à-vis du nouveau gouvernement peut être perçu par les Français, c'est vrai que le Parti Socialiste, contrairement à d'autres forces à gauche, je pense à la France Insoumise ou au Rassemblement National, n'a pas un ADN populiste. C'est-à-dire que son socle fondamental n'est pas basé sur une opposition entre peuple et élite. Il ne faut pas faire tomber l'élite à coûte que coûte. Donc là, ils ont participé à la chute d'un premier gouvernement. Il est certain que la totalité de l'électorat socialiste qui reste ne voit pas forcément d'un bon œil qu'il participe à la chute d'un second gouvernement.
Et j'ai envie de vous poser la même question s'agissant du RN, Maxence Lambrecq. Est-ce que les électeurs RN, dans le même état d'esprit, en fait, se disent une fois oui, deux fois pas forcément non? À quoi ça va nous servir de toute façon?
En tout cas, oui, je pense que les électeurs RN, globalement, sont quand même beaucoup moins regardants sur le nombre de censures. Et en effet, ils pourraient y avoir une censure au mois de mars ou au mois d'avril sur un nouveau budget. Je pense que ça serait pas... Marine Le Pen irait sans trop sourciller. Là, le PS, en fait, n'est pas prêt. Le problème est là, c'est que le PS n'est pas prêt à une nouvelle dissolution en se détachant des Insoumis, c'est qu'il cherche à gagner du temps pour construire une offre social-démocrate pour la prochaine présidentielle. Ils ont besoin de se détacher de Jean-Luc Mélenchon pour cela. Les conditions ne sont pas encore réunies. Là, ils ont essayé de s'en distinguer. Ils ont essayé d'embarquer écologistes et communistes avec eux. Ça n'a pas marché. Et le PS n'est pas encore prêt. Donc oui, ils essayent de gagner du temps. Une motion de censure dans les semaines qui viennent ne serait pas bonne, puisqu'elle entraînerait sans doute une dissolution à venir.
Voici Hélène. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, j'étais complètement dégoûtée ce soir, parce que je pensais que Bayrou allait nous donner un discours avec quelques points forts dans un programme qui permettrait un consensus, qui ferait un peu des concessions, et puis qu'on allait enfin pouvoir avancer. Puis là, je pense qu'on est reparti pour un cycle totalement politicien, plus de blabla, plus de postures politiciennes. Ça fait maintenant plusieurs élections que au second tour, je vais voter pour l'ancienne majorité présidentielle ou leurs copains, et c'est des pantins. Voilà, à mes yeux, ce sont des pantins. Et pourtant, je suis pas LFI, je suis vraiment pas quelqu'un dans les extrêmes, je suis plutôt vert, socialiste, voilà. Mais c'est plus possible, on peut pas continuer, on va laisser le Rassemblement National gagner.
Merci Hélène pour votre remarque, et au fond c'est assez conforme, Maxence Lambrecq, à ce qu'on disait à l'instant. On va se poser la question de savoir qui veut bien retourner à la censure, qu'on recommence à faire ce jeu-là, ou est-ce que chacun attend 2027 pour de bonnes ou de mauvaises nouvelles?
Bien sûr, et si le programme présenté cet après-midi par François Bayrou est aussi flou et aussi léger d'une certaine manière vis-à-vis des préoccupations des Français, c'est parce qu'il n'a pas le pouvoir, et c'est parce qu'il a tellement peu de pouvoir qu'il ressort le projet de loi simplification économique, la réforme de l'audiovisuel public, les agences de l'État qui seront réduites, le retour du cumul des mandats, éventuellement la proportionnelle, la banque de la démocratie. Enfin, tout ça parle à qui? On se demande quel est sur l'éducation, il rentre dans aucun détail. Sur le pouvoir d'achat, on se demande vraiment son programme de cet après-midi ne peut embarquer.
Alors, proportionnel, je pense, quand même, ça parle.
Oui, mais ça embarque qui?
Ça parle à des partis.
Oui, et qu'est-ce que ça vient changer dans la vie de nos auditeurs et nos auditrices. Là, moi, je ne vois pas ce qui, dans l'année à venir, peut faire évoluer. On peut se dire, ah bah là, François Bayrou, il m'a permis d'obtenir ça ou ça. Non, rien.
C'est le sens de la lassitude de notre auditrice à l'instant. Je voudrais vous confier le message d'un auditeur maintenant qui s'appelle Yvain, qui a 16 ans et qu'on salue. Il est sur WhatsApp, il dit
que
ceci.
Que de jeunes.
Ouais, que de jeunes, on est ravis. Je voudrais juste donner mon impression de patinage dans le vide depuis la dissolution de l'Assemblée. J'ai l'impression que rien n'est fait dans aucun sens, ce qui est le principe de la division actuelle. Mais enfin, quand même, c'est lassant, encore plus pour moi qui n'ai que 16 ans, dit-il. Oui. Ben, je trouve ça intéressant ce qu'il nous dit.
Oui, c'est intéressant, le patinage dans le vide, c'est vrai. C'est, en fait, c'est ce passage, on y est depuis plusieurs mois, ce passage à la culture de l'affrontement qui est inhérent à une société politique, une vie politique bipolarisée, non pas bipartisane, mais bipolarisée, à une vie politique, et François Bayrou a bien dit, il y a 5 ou 6 grandes familles politiques. Quand vous dites il y a 5 ou 6 grandes familles politiques, vous laissez entendre, vous suggérez que pour gouverner, il faut au moins qu'il y en ait 3 qui s'entendent entre elles. Donc, le passage de la société, de la culture, de l'affrontement, à une culture du compromis, c'est pas parce que bien s'entendre, c'est mieux que s'affronter, c'est que quand il n'y a plus de bipolarité, mais une tri ou une quadrupolarité, eh ben, on ne peut plus être dans l'affrontement, on est obligé d'être dans le compromis. Et ça, on a du mal. On a du mal. Les socialistes essayent, là, pour l'instant. Ils essayent, et j'imagine que François Bayrou essaye aussi. Simplement, François Bayrou, au moment où il commençait à y arriver avec les socialistes, eh ben, évidemment, Laurent Wauquiez, qui a un agenda, qui a un agenda présidentiel, a stoppé. Ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui ont des agendas présidentiels précis, c'est-à-dire les Insoumis, on sait qui est leur candidat. Les LR, on sait qui est leur candidat. Le Rassemblement National, on sait qui est leur candidat. Ne veulent pas de cette société du compromis. Et ceux qui ont des agendas présidentiels pas encore établis comme le centre ou les socialistes sont plus dans la culture du compromis. La présidentielle tue ou rend plus difficile la culture du compromis.
Regardez, en parlant de culture du compromis et de encore une fois de la place des socialistes dans cette séquence-là, on a Michel sur l'appli de Radio France et qui dit ceci, les socialistes en fait n'ont jamais recherché le compromis contrairement à leurs affirmations. Pour eux, l'abrogation de la réforme des retraites était un fait non négociable. Le compromis est donc impossible d'entrée de jeu. Le Premier ministre leur propose un compromis possible qui permettra la recherche de solutions. Qu'est-ce qu'on dit de cette remarque, Charles Sapin? Alors, parce que, en même temps, je vous vois faire.
Non, mais parce que j'essaye de réfléchir pour répondre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il parle
du parti. Il faut un scalp. Il faut un scalp au PS.
C'est ça. Il parle du Parti socialiste, mais c'est plutôt la position de la France insoumise, c'est-à-dire de demander l'abrogation, rien que l'abrogation, l'abrogation. Le Parti socialiste était dans une posture différente, ce qui explique d'ailleurs les mots fleuris que se sont envoyés les membres du Nouveau Front Populaire encore ce matin. Si vous voulez, les membres de la France insoumise qualifiaient les socialistes de collabos, les socialistes qualifiaient les membres de la France insoumise d'irresponsables. Voilà, c'est parce que justement le Parti socialiste est rentré dans une logique transactionnelle et a abandonné l'abrogation pour un objectif de suspension. Il y a quand même une différence et qui était quand même ouvert à une discussion, pourquoi pas, sur le gel. Bon, finalement, on voit que il y a une habileté. François Bayrou est une personne politique madrée. Il s'est présenté à 3 présidentielles et on voit toute l'habileté du personnage, c'est-à-dire que
il a raté 3 fois quand même.
Oui, bien sûr. Il faut être plus qu'habile, il faut croire, pour devenir président de la République. Mais finalement, avec cette proposition de remettre la balle aux partenaires sociaux de la réforme des retraites, déjà, il gagne du temps. Ça lui permet d'évacuer ce sujet de la retraite avec la gauche pour discuter du budget. Parce que c'est là, le coup près, il sera là. C'est au moment de passer son budget où la censure sera la plus dangereuse pour lui. Il a bien compris. Et il a bien compris pourquoi son prédécesseur, Michel Barnier, était tombé. Et finalement, il y a un autre outil très pratique de faire cette conférence de financement avec les partenaires sociaux, c'est qu'il a tout de suite donné les cadres et a dit, bon, ils peuvent discuter 3 mois, mais il faut qu'ils trouvent quelque chose d'alternatif qui ne déséquilibre pas financièrement les comptes de l'État et le projet de réforme des retraites. Donc, c'est-à-dire que si jamais, au bout de 3 mois, il n'y a pas d'accord ou que l'accord conduit à un déséquilibre, eh ben, on revient à la réforme initiale et le gouvernement a tout jeu de dire « Mais attendez, nous, on a rouvert le dossier comme la gauche nous le demandait.
C'est pas notre faute.
C'est les partenaires sociaux qui ont échoué. »
Et c'est ce que vient de dire François Bayrou à l'Assemblée en réponse aux 12 groupes d'opposition, puisqu'il a pris la parole à l'issue de cette longue déclaration de politique générale pour dire, évidemment, si dans 3 mois, ils n'ont pas trouvé un accord, c'est la réforme actuelle qui s'appliquera et qui continuera de s'appliquer.
Mais du coup, le couperet, effectivement, le couperet, c'est d'abord le budget. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il espère, au fond, que le couperet ce soit, soit plus lointain, c'est-à-dire soit à l'issue de ces 3 mois, sachant que c'est 3 mois après...
La mission flash.
Après la mission flash, effectivement, de la Cour des comptes. Donc, ça fait 3 mois et un peu plus, probablement. Donc, est-ce qu'il se dit qu'au fond, le budget peut passer, que le vrai couperet, ça viendra après, s'il y a échec du conclave ou... Donc, est-ce que le couperet peut être un peu plus lointain, Thomas Legrand ?
Le couperet le plus dangereux, le plus aiguisé, c'est le budget.
Okay.
C'est le budget. Parce que sur le budget, pour des raisons différentes, le Rassemblement National et la gauche peuvent avoir des arguments pour voter une motion de censure présentée par la gauche, puisque la gauche ne voterait jamais une motion de censure présentée par l'extrême droite. Donc, il veut se concentrer sur le budget, et là, on n'a eu aucune précision. On n'a eu aucune précision aujourd'hui.
Il a été très habile pour ne rien dire. C'était assez exceptionnel, puisque tout a été sur la table, la taxe sur les revenus, etc. Et non, pas un mot.
Puisqu'on dit qu'il est malin, je crois qu'il a compris une chose, c'est que les socialistes ne sont pas, comme le disait Maxence, ne sont pas en mesure d'envisager des législatives en septembre. Les premières législatives possibles, c'est septembre. Disons, praticables, c'est septembre. Et là, à partir du moment où il y a une rupture entre les socialistes et les insoumis, ça va être très compliqué d'avoir un seul candidat partout dans le cadre du NFP. Et donc, et surtout, ça serait, les socialistes seraient laminés. Donc,
surtout
les socialistes.
Surtout
un projet. Oui, oui, mais sur les projets, ils peuvent en trouver. Oui. S'ils s'entendent sur les circonscriptions, ils trouvent des
projets. Vous croyez vraiment à une dissolution au mois de septembre, honnêtement? Parce que, comme vous dites, effectivement, je ne vois pas très bien ce qui changerait réellement la vision de l'Assemblée nationale. Il y aura peut-être quelques modifications dans les groupes, mais de là à trouver de toute façon une majorité quelque part, certainement pas.
Tout est lié, en fait, à ce coup près du budget. C'est-à-dire que soit François Bayrou tombe comme son prédécesseur, et dans ce cas, on rentre dans une période d'instabilité importante. C'est-à-dire qu'on sera déjà à 2 premiers ministres qui tombent, en sachant que chaque fois...
Il en faudra un autre avant la dissolution de septembre.
Oui. Sauf que chaque fois qu'un gouvernement tombe, il fragilise le suivant, parce qu'on se rend compte que c'est très facile, et puis on crée en fait de la tension politique. Si François Bayrou arrive à survivre au budget, c'est-à-dire en donnant suffisamment de concessions, là, pour le coup, l'horizon se dégage. Parce qu'il aura beau rôle jusqu'à l'année prochaine de présenter des textes consensuels, et on arrivera très vite en 2026, où là, vous avez les élections municipales, puis 2027, nouvelle élection présidentielle. Donc, si finalement François Bayrou arrive à survivre au budget...
Et comme il se dit que les socialistes ne veulent pas censurer...
Il n'y aura pas de dissolution. Oui. Il y aura, si vous voulez, le scénario d'une nouvelle dissolution s'évanouit, et tout comme le scénario d'une présidentielle anticipée.
Retour au standard avec Graziella qui nous attend. Bonsoir Graziella.
Bonsoir.
On vous écoute.
Ben moi, je me posais justement la question de savoir si on n'est pas dans un symptôme du quinquennat, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a tout le temps que la présidentielle qui revient, que tout tourne autour de ça et qu'il n'y a jamais l'intérêt du peuple, l'intérêt général qui permet de discuter de choses sérieuses, en fait, qu'on a juste des petites guéguerres de phrases à n'en plus finir, ou encore des égos surdimensionnés qui prennent toute la place. Mais le concret, on ne l'a jamais, en fait.
Je voudrais ajouter, merci Graziella, la question de Graziella, celle de Cordélia, sur WhatsApp, qui dit « Il est clair qu'aucun des dirigeants de gouvernement ou de parti n'est décidé à céder sur quoi que ce soit, et dans ces conditions, la proportionnelle notamment, ne réglerait absolument rien, puisque personne ne veut coopérer avec ses opposants. » Alors d'abord sur Graziella, et ce que disait Cordélia derrière, et encore une fois, ça nous ramène au début de notre discussion, sur la lassitude qui a gagné quand même les électeurs. Alors, ça date pas d'hier, mais ça prend de l'épaisseur.
Oui, et avec cette perspective, en effet, du quinquennat, qui fait qu'il y a beaucoup moins de temps entre deux présidentielles et que l'échiquier politique est obsédé par cette échéance. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens que c'est vrai que c'est l'élection reine qui rythme la politique, mais on a l'impression encore plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période d'instabilité politique qui, à mon sens, est le produit de la période de transition dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une période de transition comme l'est à chaque fois une fin de règne. On sent bien que, quand bien même on est à la moitié du second quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est une fin de règne.
Ça va être long alors, 3 ans.
Ah bah oui, mais je prends juste un exemple. On a quand même un président de la République qui n'a même pas été capable d'imposer et de nommer lui-même son propre Premier ministre. C'est-à-dire que c'est un Premier ministre qui s'est imposé à lui. Enfin, c'est quand même, c'est quasiment sans précédent. Ça, on voit à quel point le pouvoir présidentiel est abîmé et en fin de course. À partir du moment où vous êtes dans une fin de règne, la seule question prégnante, et c'est vrai que ça a beaucoup de conséquences, c'est que est-ce que cette fin de règne permet au président en place de passer le témoin à un de ses disciples, donc finalement il y a une forme de continuité, ou est-ce que finalement le camp présidentiel chute avec lui, ce qui ouvre une période d'alternance. C'est vrai que, et du coup, tout le monde est obsédé par cet horizon, ce qui crée une période d'instabilité politique et qui donne l'impression que les sujets de fond est important pour les Français passent au second plan, ce qui est moins vrai en temps politique normal. Là, c'est vrai qu'on a un éclatement au sein de l'hémicycle qui fait que les forces politiques sont obligées de s'entendre et créer des majorités un peu de briquet de broc avec des gens qui se détestent et qui pensent pas la même chose, ce qui fait qu'ils sont obligés de faire un peu de la... Quand ils arrivent à avoir un petit peu de stabilité, ils sont obligés de faire de la gestion quotidienne, de gérer un peu un déclin, mais ils sont incapables de mettre une réforme de fond. Pourquoi ? Parce que si vous mettez une réforme un peu idéologiquement affirmée, vous perdez la moitié de votre majorité.
Ah bah, et sans majorité, de toute façon, une réforme affirmée, je vois pas comment ça peut fonctionner. Sur la proportionnelle, Thomas Legrand et Cordélia qui nous disent de toute façon, en l'état de la politique, ça changerait absolument rien puisque personne ne peut s'entendre.
Alors, je suis pas d'accord avec ça, parce que, je l'ai déjà dit je crois, dans un téléphone sonne récemment, oui. En fait, la proportionnelle, ça change la façon de faire de la politique, ça change la façon d'envisager de faire de la politique, et même la façon de la commenter. Par exemple, quand une liste se présente à la proportionnelle, nous, qu'est-ce qu'on dirait ? On ne dirait pas qui va gagner et qui va perdre, on dirait qui va s'allier avec qui. Et donc, toutes les tractations pour savoir comment on va amender son programme, elles sont traitées dans la campagne. Quand un social-démocrate allemand, un électeur social-démocrate allemand vote pour les sociaux-démocrates en Allemagne, il ne vote pas en se disant « j'espère que mon parti va gagner et que tout le programme sera appliqué », parce que d'abord...
Mais ils ont cette culture-là depuis très longtemps.
Ils ont cette culture-là parce que c'est... Attends. Ouais. Et il espère que son programme sera la base de la négociation. Et ça change tout.
Mais parce qu'on sait faire avec la proportionnelle, Thomas Legrand, depuis très longtemps.
On est obligé.
Dans les pays qu'il applique, nous...
Mais on savait faire sous la 3e, sous la 4e République. On sait faire dans les entreprises. 80% des accords d'entreprise, la CGT a voté. Donc, vous voyez, on sait faire partout, sauf en politique. Donc, c'est pas dans notre culture. Ça, je récuse le côté culture, révolution, on s'affronte, on aime ça. C'est très facile à commenter pour nous. Ça, c'est plus facile. Mais en réalité, ça créerait une obligation de s'entendre. Chacun, tous les candidats qui se présentent, aucun ne pourrait penser qu'il va tout appliquer. Et voilà, et le tout ou rien de Mélenchon ou de Le Pen serait impraticable.
C'est marrant parce qu'on a une auditrice sur WhatsApp qui nous dit « Ah là là, Thomas et son obsession pour le compromis ». Voilà,
compromis, chose due.
Un mot, Maxence, et puis on retourne au standard.
Non, je ne crois pas du tout. Je ne suis pas du tout sur l'hypothèse de Thomas. Je pense qu'il faut une génération pour changer cette affaire.
Je suis trop vieux, désolé,
mais avec les personnels qu'on a en face de nous et les animaux politiques qu'on a, qui resteront après une proportionnelle, ils seront même en tête de liste, tous ceux qui sont aujourd'hui sur les plateau.
Oui, d'accord. Personne ne pourra gouverner seul.
On voit bien ce qu'on a, on voit bien ce qui s'est passé hier et avant-hier avec François Bayrou qui a été empêché par ses amis. Je vois pas ces mêmes personnages.
Parce que tous ces gens-là ont été élus en pensant qu'ils allaient tout faire eux-mêmes et qu'ils allaient tout gagner.
Et pour nous, les électeurs, apprendre aussi avec la proportionnelle qu'on ne vote pas pour la personne qui est réellement celle de notre circonscription, mais pour la tête de liste, etc. Je pense qu'il y a un apprentissage qui est un énorme apprentissage
et
à faire.
Pour les politiques, pour les électeurs,
mettre la proportionnelle pour que cette génération commence, qu'on commence maintenant.
Allez, on va à Martigues d'abord rejoindre Sylvain. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Merci Fabienne pour vos émissions. Toujours très instructif.
Merci Sylvain.
Et je vous appelais juste pour mettre un petit message sur... c'est pas forcément une question, mais c'est... j'ai entendu aujourd'hui... je l'ai pas vraiment entendu, mais j'ai écouté votre émission sur le discours de politique générale de M. Bayrou, et je voulais juste indiquer que on n'a pas forcément la même temporalité avec, avec les politiques. J'aime bien suivre la politique aujourd'hui, mais je trouve que ça va vraiment trop vite, qu'on réagit trop vite à tout ce qui se dit, ce qui se passe. Et c'est que des fois, nous, dans notre vie active, en vrai, on va pas au même rythme. Donc c'est juste, ok, il a dit quelque chose aujourd'hui, ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais laissons faire ce gouvernement et on le jugera en temps voulu dans un an, ou j'en sais rien, quand on le jugera plus tard, mais laissons les faire leur travail comme nous on fait notre travail tous les jours et c'est après qu'on jugera.
Merci beaucoup, Sylvain.
De sagesse.
Ouais, mais absolument. Mais il est assez conforme, Charles Sapin, notre auditeur, avec ce qu'on a entendu aussi jusqu'à présent.
C'est vrai.
Encore une fois, on parlait de lassitude. Est-ce qu'on a envie de se se retaper un épisode de enquête d'un premier ministre, le mouton à cinq pattes, blablabla. Bla, bla.
Oui, mais enfin.
Quelle fatigue.
En fait, non mais je comprends.
Fabienne est fatiguée.
Ouais, Fabienne n'est pas prête à une série de téléphones sonnent.
On est mardi.
Le nouveau premier ministre.
Oui, quel mardi. Mais non mais je comprends cette lassitude. Mais encore une fois, normalement dans le jeu normal des institutions, c'est ce qui se passe. Et entre deux présidentielles, vous avez des élections un peu au milieu, souvent des européennes ou des élections régionales. Mais normalement, le gouvernement, s'il a une majorité, il fait ses réformes, on discute. Et puis à la fin, il y a le couperet qui est la nouvelle élection présidentielle. Bon, ce qu'il s'est passé, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, a commencé son second mandat de façon très affaiblie. Et il a voulu faire un coup de poker. C'est-à-dire, il s'est dit, c'est très simple, moi je ne vais pas terminer mon mandat comme ça, je vais me redonner de l'oxygène et pour ça, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Il y avait deux scénarios qui pouvaient lui être favorables. Le premier, c'était que le rejet que suscite la France insoumise à gauche et le rejet que suscite le Rassemblement national à droite pouvaient, un peu par miracle, reconstituer un bloc centriste et finalement, il se retrouvait avec une majorité solide et un pouvoir légitimé qui lui permettait d'aller jusqu'à la fin de son mandat. Ce n'est pas ce qui s'est passé.
Ah bon ?
Il y avait une autre solution, c'est que finalement il y ait un vote contre lui tellement fort que le Rassemblement National gagne une majorité et il devenait finalement le premier combattant opposant à la lèpre populiste au pouvoir et finalement il avait un rôle institutionnel
mais
intéressant.
Mais on a compris effectivement quels étaient ses calculs, mais il s'est juste planté sur chacun de ses calculs.
Évidemment, Gabriel Attal a appelé en fait à faire Front Républicain, il y a eu des désistements de candidats, il n'avait pas compris, et finalement, aucun de ces deux scénarios s'est révélé bon, et il se retrouve encore plus affaibli que quand il a commencé son second mandat. Mais du coup, finalement, tout ça pour répondre, pardon, c'était un peu long, mais normalement, laisser le temps à un gouvernement d'appliquer ses réformes et juger à la fin, c'est ce qui se passe institutionnellement. Le problème, c'est que le président de la République lui-même en a décidé autrement.
Allez, il nous reste très peu de temps, mais on a du temps pour vous. Pierre-Antoine, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Moi, je voulais juste souligner le poids de la dette. Et en fait, il n'avait pas trop le choix d'essayer de l'embiner par rapport à cette question du poids des agences de notation et autres créanciers. Pour éviter effectivement de mettre en difficulté un peu plus la situation économique en France. Donc c'est bien qu'il ait accepté cette réforme et qu'il ait donné 3 mois pour effectivement essayer de changer ensuite dans les détails.
Merci Pierre-Antoine, pardon de vous presser, mais il nous reste une petite minute. Thomas Legrand, peut-être que la vertu de cet épisode politique que nous traversons depuis le mois de juin dernier, c'est que le bois de la dette, la question de la dette, la résorption de la dette, oh là là, c'est désormais...
Ah, c'est au centre, mais...
Exactement. Et oui, dans nos conversations aussi, c'était pas le cas avant, honnêtement.
Oui, bien sûr, mais c'est pas qu'une question économique, puisque en fait, le poids de la dette est d'autant plus lourd que la politique est instable. Donc même si ça coûte un peu de faire des compromis, il faut... une stabilité. Et là, le discours, il était évidemment, il y avait la dette au centre du discours, mais le discours, visiblement, ne permet pas d'installer durablement la stabilité. Je ne sais pas quel est le bon calcul, mais peut-être que quelquefois, il faut payer un petit peu pour stabiliser et donc réduire le poids de la dette.
Il a dit qu'il fallait s'entendre aussi. C'était à la fois presque naïf, mais en même temps, on peut comprendre peut-être,
oui, qu'il n'y aura pas de grand soir.
Oui, c'est ça.
C'était sa conclusion. Il n'y aura pas de grand soir. De fait, avec toutes ces contraintes sur les épaules, il ne peut pas y avoir de grand soir. Et la dette est une contrainte très forte.
Voilà, c'était sa conclusion, mais ça n'est pas la nôtre, car il y en aura d'autres. Des téléphones sonnent avec grand plaisir autour de ce thème-là. Allez, la question des petits bateaux.
Pas trop fatigué, quand même.